Ngibingelele bonke abasilalele endaweni ngeendawo ngendlela zokuchwepheshe nani nonke enkhona la enkonzweni.
I greet all of you who are listening to this service over the airways or streaming, whichever means you are using, and to all of you who are present.
Je vous salue tous, vous tous qui écoutez à travers la radio ou Internet, quel que soit le moyen que vous écoutez, et aussi vous qui êtes là ce matin. Je suis d'accord avec la personne qui m'a appelé ces derniers jours d'Europe et qui m'a dit « Je suis émerveillé de voir l'œuvre du Seigneur, comment Dieu agit. » Cette personne a dit, elle avait l'idée que une fois que Oncle Erlo serait décédé, alors ce serait la fin de cette œuvre de la mission. Cette personne a dit, je suis émerveillé de voir comment l'œuvre continue, comment l'œuvre grandit. Et alors, cette personne a réalisé, ce n'était pas l'œuvre uniquement de Pasteur Stegen, donc Léalo, mais c'est une œuvre de la main même de Dieu, une œuvre qui émane du travail du Seigneur, non pas d'un homme. Et même alors que nous sommes rassemblés et que nous réunissons aussi avec ceux qui font du conseil, beaucoup témoignent de l'émerveillement de voir ce que le Seigneur fait dans les cœurs. Dieu est à l'œuvre dans sa puissance. Même ceux qui sont troublés par des puissances démoniaques, par des esprits mauvais, témoignent de leur délivrance. Une personne a témoigné en disant, j'ai été troublé par ces esprits démoniaques mauvais. Et quand je demande aux autres, est-ce que vous voyez ces esprits? Les autres me disent non. Et après, cette personne a purifié son cœur, elle a confessé ses péchés en les apportant la lumière. Alors elle a pu témoigner, je suis délivré, je n'ai plus ces esprits mauvais qui viennent me troubler. Une autre Vous savez, quand une personne Donc, vous savez, on peut considérer toutes choses de plusieurs manières. L'un va voir quelque chose, l'autre voit autre chose. Chacun voit. Si tu demandes, tu montres une page et tu dis quelle couleur est cette page. Il y en a un qui va vous dire elle est blanche et l'autre qui va dire non, elle est légèrement orangée. Donc chacun peut avoir une vision différente des circonstances ou de ce qui se passe.
And even with those we see God at work.
good. And so we'd like to ask the reception to please bear with us, because sometimes wife brings her husband.
Mais même en cela, nous voyons le Seigneur à l'œuvre. Nous sommes reconnaissants et que la réception soit souple et accepte, comme cette femme qui vient avec son mari et il n'est pas disposé à venir, mais la réception les accepte. Et puis ils restent. Et puis lorsqu'ils veulent prolonger leur séjour, nous sommes reconnaissants de voir la souplesse des gens de la réception qui font les arrangements nécessaires pour que les gens puissent rester plus longtemps que prévu. Ainsi, aussi ceux qui peuvent être troublés par l'alcoolisme, par les addictions à la tabac, à la drogue, ils témoignent comment ils n'ont plus cette soif pour l'alcool, comment ils n'ont plus cette envie de tabac ou de drogue. Et nous sommes reconnaissants pour ce que le Seigneur fait. Donc nous pouvons témoigner, comme cette femme d'Europe qui a dit, elle pensait que l'œuvre du Seigneur s'arrêterait une fois que Pasteur Stegen est mort, mais ce n'est pas le cas, et l'œuvre continue. Si nous pouvions donner l'occasion ce matin à ceux qui peuvent témoigner, de venir s'avancer et témoigner, il y aurait beaucoup de gens qui pourraient se lever et témoigner de ce que le Seigneur fait dans leur vie. Le pasteur Stegen aimait la chorale de ses avant-tout et quand il chantait, je me rappelle comment il aimait leur chant. Et en écoutant les chants, c'était comme s'il y avait un nouvel élan, une nouvelle inspiration, une nouvelle force pour continuer à annoncer l'Évangile. Mais vous avez entendu comment ils ont chanté. Vous avez vu, quand ils chantent dans une langue particulière, alors tous parlent la même langue. Et ainsi, lorsque nous aussi, nous serons une fois au ciel, alors nous parlerons tous la même langue. Nous n'aurons pas besoin de traducteurs pour nous donner la signification. Nous utiliserons tous la même langue. Et en les entendant chanter, cela m'est venu, cette idée, en me disant, ils chantent de différentes langues, nous avons besoin de traduction, mais une fois au ciel, nous chanterons et nous parlerons tous la même langue. Nous voulons encore prier. Oh Dieu, Seigneur, veuille te manifester ta présence par ton Saint-Esprit. Parle-nous au travers de ta parole, qu'elle puisse toucher nos cœurs. Amen. Un rappel avant de continuer, l'annonce. L'annonce de camp de jeunes, rencontre de jeunes, du 7 au 14. Et aussi, comme vous avez pu le voir, il y a un certain nombre de coéquipiers et coéquipières de la chorale qui ne sont pas là ce matin. Beaucoup sont aussi partis pour aller annoncer l'Évangile et prêcher dans les différentes assemblées. Alors, rappelez les gens chez vous, dans votre quartier, dans vos amis, invités, les jeunes à venir pour la conférence du 7 au 14 décembre. Et comme je l'ai déjà dit, certains noms sont partis pour aller annoncer l'évangile. Il y a aussi une équipe qui est allée à Harding pour entourer la famille de quelqu'un qui est décédé. Alors ce matin, nous voulons lire un passage dans Romains 6, l'épître aux Romains, au chapitre 6. Alors que vous tournez votre Bible, laissez-moi faire quelque chose d'inhabituel. Dans notre passage, aussi que je voudrais lire. Ce sont des paroles d'introduction, donc je vais passer rapidement sur ces passages. Donc, mon passage principal pour la prédication sera dans Romains 6. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens que la prédication de la croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Donc c'est quelque chose qui est mentionné dans 1 Corinthiens 1, verset 18-19. Il dit, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Donc, ceux qui se perdent, si vous n'aimez pas la parole de Dieu, si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, alors vous faites partie de ceux qui se perdent. C'est ce que la Bible nous dit. Si tu continues à vivre ta vie d'enfer, alors tu te perds. Et alors que tu vis encore dans ce monde, les flammes de l'enfer déjà commencent à te lécher. Vous avez celles qui n'aiment pas la parole de Dieu. Ils viennent à la réunion, mais ils préféraient aller à d'autres endroits, visiter d'autres personnes. Mais certains jeunes, certains enfants sont aussi le même esprit. Si ce n'est pas les parents qui les emmènent, alors ils n'ont pas envie de venir à la réunion. Alors, et le verset 19 nous dit, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu, la prédication de la croix. C'est la deuxième partie du verset 18. Mais ce passage parle de ceux, pour nous qui sommes sauvés. C'est autant au présent, ce n'est pas au passé, ce n'est pas au futur. Il est dit pour nous qui sommes sauvés. Donc c'est un processus présent et journalier, quotidien. Si tu vas et que tu t'excuses, ou que tu vas et tu mets à la lumière ton péché, alors en faisant cela, tu es sauvé. Et alors, tu obtiens la force, la puissance pour résister au péché. Et en cela, il y a un mystère. Il y a un mystère que, en confessant ton péché, en priant, tu as alors une nouvelle puissance, une nouvelle liberté, une nouvelle force pour résister au péché, pour être sauvé de ton péché. Et verset 19, verset suivant, il dit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents. » Alors en anglais, il est dit « Je détruirai ». En zoulou, il est dit « Je vais anéantir ». Je vais l'amoindrir au point que cela n'existe plus. Anéantir, on pourrait dire en français. Donc une fois anéanti, il n'y a plus rien. Et il en est ainsi. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas, n'arrive pas à comprendre la puissance de l'Évangile parce que ce n'est pas quelque chose qui se comprend par l'intelligence, par la raison. C'est pourquoi il est dit dans ce passage, « Je détruirai la sagesse des sages ». Rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus a fait lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'il a marché sur cette terre. Rappelez-vous comment il s'est présenté à des pêcheurs tout simples. Les hommes en train de pêcher, et il les appelait en disant « Venez, suivez-moi ». Ainsi, il a pris des hommes insignifiants aux yeux de la société, des hommes sans valeur. Il n'est pas allé dans les résidences où se trouvaient les gens les plus intelligents, les plus érudits. Non, il est allé voir des hommes simples. Donc si toi, tu te considères comme quelqu'un de valeur, d'important, alors sache que Dieu ne peut pas t'utiliser. Si tu es fier, tu es orgueilleux, arrogant, en disant, moi, je suis capable de ci, j'ai le don pour cela, alors sache que Dieu ne peut pas t'utiliser. Verset 23 du chapitre 19 de Luc, Jésus a rappelé en disant, celui qui veut me suivre doit prendre sa croix quotidiennement, chaque jour, et doit me suivre. Alors, comment pourras-tu porter la croix de Christ si tu penses être quelqu'un? Si tu es encore orgueilleux, arrogant, non, tu ne vas pas vouloir porter la croix. Tu vas vouloir cacher cette croix. Tu ne veux pas que les autres voient que tu portes cette croix. Dis-moi, comment peux-tu continuer à voler si tu portes cette croix? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas poser ta croix, tu vas monter dans l'arbre, voler, ou tu vas rentrer dans le magasin, voler. Et ainsi, la croix est le croisement de deux morceaux de bois. Un vertical et un horizontal. Et toi, en tant que croyant, nous devons avoir cette communion avec Dieu, représentée par ce bois vertical, et avec tes frères et sœurs, représentés par ce bois horizontal. Ainsi, ça ne suffit pas de dire « Ah, je suis croyant, mais je n'ai pas besoin des autres. » Non, la croix amène la réconciliation entre Dieu et toi, mais aussi entre toi et les autres hommes. Tu ne peux pas porter ta croix en étant droit. Non, il te faut te courber en portant ta croix. Si tu es arrogant, fier, orgueilleux, alors c'est un signe que tu as perdu la croix. Tu as laissé la croix de côté. Si nous sommes croyants, enfants de Dieu, alors nous allons porter notre croix chaque jour. Et chacun a sa propre croix à porter. Tu ne peux pas porter la croix de ton père, de ta mère. Non, chacun a sa propre croix à porter. Si tu veux suivre le Seigneur Jésus, alors il faut renoncer à toi-même. Prendre la croix et suivre le Seigneur Jésus quotidiennement, comme il l'a ordonné. Si tu as un travail ou une tâche que tu travailles avec d'autres, alors il te faut les servir, il faut t'humilier afin que les autres puissent réaliser que tu es différent des autres. Et ils arrivent à la conclusion, non, le Seigneur Jésus a fait une œuvre en toi. Regardez ce que Jésus lui-même a fait. Il était Dieu et pourtant il a lavé les pieds de ses disciples. Peut-être tu as des personnes qui travaillent dans ton équipe que tu gères et toi tu dis quoi? Moi, m'abaisser au point où je vais laver les pieds de mes employés? Et pourtant, Jésus l'a fait avec ses disciples. Voilà ce que la croix veut dire. Voilà ce que la croix fait dans le cœur de ceux qui sont sauvés. Mais ceux qui sont perdus, alors, la parole de Dieu, le message de la croix est une folie. Et peut-être tu es ainsi et alors tu as déjà cette pensée, oh, pourvu que cette réunion se termine déjà. Dans Luc 10, verset 21, le Seigneur remercie son Père qu'il a caché le message, le mystère aux gens intelligents et que le Seigneur l'a révélé aux enfants. Tant que croyants, nous savons que nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu et ainsi nous devenons comme des enfants, des enfants de Dieu. C'est ce que nous devons devenir. En tant que croyants, nous devons devenir comme des enfants. Et ainsi, les autres doivent réaliser que Christ est en nous.
An amazing thing happened, which we read about in Luke 9, verse 28, where Jesus took some men with him, Peter, John, and James, and he went up to the mountain.
Alors, rappelez-vous ce qui se passait incroyable dans ce qui est écrit dans Luc 9, verset 28, au moment où Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean et les a emmenés sur la montagne pour prier. Et alors, quand ils étaient sur la montagne, quelque chose d'incroyable est arrivé. Tout à coup, le visage de Jésus, ses habits ont été transformés et il était resplendissant, blanc, une blancheur éblouissante. Alors, ils ont vu Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Jésus. Pierre, ne sachant pas ce qu'il racontait, a dit alors, « Ah, faisons quelques tentes pour chacun d'entre vous. » Et il y a une nuée qui les a recouverts. Une fois que la nuée s'est dissipée, alors ils n'ont vu plus que Jésus avec ses disciples. Vous savez, il en est ainsi. Ceux qui nous attaquent et vous savez, si quelqu'un vient et raconte, par exemple, avoir eu un rêve de ce style, comme nous lisons dans la parole, alors certains, nos ennemis, nous accusent en disant « Ah, vous voyez, c'est le culte des ancêtres, puisque vous faites revenir Moïse et Élie. » Quelqu'un pourrait dire, interpréter ce passage comme cela. Et ça n'a rien à voir avec le culte des ancêtres et de faire revenir les morts. Et le Seigneur agit de sa manière. Et même lorsqu'il est monté sur la montagne pour prier. Est-ce que tu comprends cela? Jésus lui-même, Dieu incarné, était aussi en prière. Pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, il est tellement important de comprendre, de savoir comment prier. Même les disciples de Jésus sont venus près de lui et lui ont dit, « Maître, apprends-nous à prier. » C'est à ce moment-là qu'il leur a appris la prière connue qui dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. » Cette prière du Notre Père. Jésus savait de la manière dont il devait pardonner. Mais aujourd'hui, beaucoup utilisent le nom de Jésus en vain. Si facilement, les gens jurent en disant « Oh, Jésus ». En anglais, c'est un nom, c'est un juron, une expression. On dit « Oh, mon Dieu ». Jésus, Jesus. Et la Bible condamne de tels comportements, d'utiliser le nom de Dieu en vain. Cela me rappelle l'histoire d'un homme blanc qui est venu. Et il est venu en disant, je ne sais pas comment les Noirs peuvent être aidés avec cela, avec ce point particulier. Certains disent, ah, oh mon Dieu, il fait si chaud. Oh mon Dieu, il pleut tellement. Et ainsi, en anglais, on utilise le mot Jesus. C'est la même chose quand on dit en français Oh mon Dieu. Et ainsi, le nom de Jésus est utilisé à tout va et comme un juron. Même à la radio, vous entendez comment certaines personnes utilisent le nom de Jésus en vain. La Bible condamne cela. Et si tu ne t'es pas repenti de cela, alors confesse-le et demande la prière pour que le Seigneur te pardonne et te délivre de cette utilisation du nom de Dieu en vain. Et je dis cela en tant que noir. Oui, dans le passé, j'ai utilisé aussi le nom de Dieu en vain, mais j'en suis repenti. Il y a encore autre chose. Laissez-moi vous dire, en tant que noir, vous blanc, qui me... qui me trouble. Vous avez un frère qui décède et vous n'allez pas à l'enterrement. Cela me trouble. Si c'est ainsi et que tu n'as aucune attention, alors l'enfer, le ciel n'est pas pour toi. Nous, les Noirs, nous avons reçu l'évangile de la part des Blancs. Alors, ne venez pas maintenant apporter la confusion comme vous avez apporté l'évangile dans le passé. Peut-être qu'il y a un enterrement ou même un mariage. Et tu dis non, je n'ai pas le temps de venir. Nous avons reçu l'évangile des Blancs. Alors maintenant, ne viens pas avec ta confusion et venir nous rendre confus. Vous savez, dans notre culture, même lorsqu'un sorcier jette un sort sur quelqu'un pour le tuer, il va quand même venir à l'enterrement. Et alors, ils viennent à l'enterrement et alors ils vont se mettre un peu de piment dans les yeux pour pleurer et ainsi manifester la tristesse à l'enterrement de celui qu'ils ont tué. Et ils participeront à l'enterrement parce que si c'est par exemple leur voisin, ils ne veulent pas avoir la honte de ne pas avoir participé à l'enterrement, même si c'est lui qui l'a tué. Voilà l'importance pour nous de participer à l'enterrement. Et nous avons appris tellement de choses sur l'évangile, le salut. De la part des Blancs, mais maintenant il y a certaines choses que je ne comprends pas, comment certains Blancs réagissent. Il y a un mariage, un enterrement, et les gens ne prennent même pas la peine de venir, de participer. Nous avons appris des Blancs des choses différentes. Si on tombe et on fait casser le verre ou la tasse, les gens disent « Ah, c'est pas grave ». Et si l'enfant, on lui dit « Ah, c'est pas grave ». Mais nous, alors, on reprenait l'enfant. Nous avons appris, les Blancs, que nous pouvons... La compréhension lorsque quelqu'un casse quelque chose. Nous, ce n'était pas comme ça. C'est le papa ou la maman, ils se mettaient... Il reprenait l'enfant qui cassait quelque chose. Si tu casses la voiture, ce n'est pas grave, ça peut arriver à n'importe qui. Ce n'est pas grave. Non pas comme les incroyants qui, lorsque quelqu'un casse une tasse, alors il dit t'es tellement maladroit, mais c'est pas possible, tu peux pas faire attention, etc. Non, ça, ce n'est pas juste. Pas juste de réagir de cette manière. Et ainsi, nous avons appris de cette manière n'est pas juste. Il y a une autre manière plus juste de faire dans de telles circonstances. Alors, lisons désormais le passage principal que j'ai mentionné plus tôt dans Romains 6. Nous avons prié, nous avons demandé au Seigneur d'être avec nous, de nous parler au travers de sa parole. De ce que j'ai dit dans mes différentes remarques, cela coïncide aussi avec ce que la chorale a chanté quand elle a chanté un chant sur le salut. Sans salut, nous n'allons nulle part. Nous lisons en Tite le salut, au rapport au salut, que la grâce est apparue et qu'elle nous enseigne à dire non aux œuvres du mal et de marcher de manière juste. Donc nous sommes enseignés chaque jour, nous sommes enseignés comment marcher de manière juste, de manière divine, de manière droite. Comme je l'ai mentionné, comment Clairlo appréciait la chorale. Rappelez-vous, dans les années 60, il n'y avait pas de chorale. Il se levait, prêchait, mais c'est une fois que nous avons expérimenté le réveil qu'il y a eu l'émergence de ces chorales. Je ne vais pas dire qui a eu l'idée ou qui a donné l'inspiration pour commencer la chorale. Parce que c'est un enfant qui est allé voir Pasteur Stegen en disant « J'ai à cœur de commencer une chorale. » Et quand le Pasteur Stegen a eu entendu ce que cet enfant, cette jeune fille, avait à cœur, il a dit « C'est une bonne idée. » Il a encouragé dans ce sens-là. À cause de cette idée, cette inspiration de cette jeune fille, c'est alors qu'il y a eu ces chorales. Avant, nous avions les chants de l'Assemblée. Nous avions les chants de l'Assemblée, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le début des chorales. Alors lisons dans le passage que j'ai mentionné, Romains 6. Verset 1. Donc, Romains chapitre 6. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Il dit ici, comment nous qui sommes morts au péché, comment pouvons-nous vivre encore dans le péché? Ce n'est plus de la grâce si on continue à vivre dans le péché. Comment nous qui sommes morts au péché, pouvons-nous continuer à vivre dans le péché? Frères et sœurs, comment en est-il? Après vous êtes repentis, vous dites vous êtes croyant, que vous êtes chrétien, et pourtant vous continuez à vivre dans le péché. Peut-être cette réponse vient à toi. Oui, tu as confessé tes péchés, tu t'es repenti, mais tu n'es pas mort au péché. Jeunes gens, et aux plus âgés aussi, comment est-ce que le péché peut continuer à régner, à nous diriger? Si tu as confessé, tu t'es repenti, ce péché doit être mort. Ce péché ne devrait même pas relever la tête dans ta vie. Comment peux-tu être enfant de Dieu et pourtant continuer à pécher et à te laisser diriger par le péché? Est-ce que tu es vraiment mort ou pas? Nous devons, en confessant, mourir à nos péchés, à notre péché. Nous devons être transformés, régénérés en une autre créature. C'est ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens. Si tu es enfant de Dieu, alors tu es une nouvelle créature. Est-ce que tu as expérimenté cela? Depuis que tu as choisi de suivre le Seigneur, est-ce que tu es cette nouvelle créature? Qu'est-ce qui te dirige dans ta vie? Tu le sais, toi-même, dans ton cœur, ce qui te dirige. Alors va et confesse ce péché. Il faut aller à la racine du péché. Nous sommes reconnaissants comment, quand le réveil est venu, alors nous avons confessé nos péchés, mais nous sommes allés à la racine du péché. Il faut aller à la racine du péché. Si tu ne sors pas la racine, alors tu vas continuer. La parole, nous avons lu, dit, est-ce que nous allons persister dans le péché pour que la grâce abonde? Vous savez, certains peut-être confessent leur péché de la manière suivante, comme s'ils coupent un arbre. Ah, ça y est, j'ai confessé mon péché. Mais ils ne descendent pas à la racine. Ils ne creusent pas autour de l'arbre pour sortir et arracher les racines. Et si vous ne faites pas ça, l'arbre repart, l'arbre repousse. Quel genre de foi est cela alors? Si tu dis tu es croyant, mais tu es toujours dirigé par le péché, qui est ce Jésus que tu dis avoir reçu dans ton cœur et pourtant tu continues à être dirigé par le péché? Quel genre de Jésus as-tu, jeune fille, lorsque tu commences à avoir ce genre de pensée en te disant « Ouh là là, ce jeune homme me regarde » et que tu fais attention à jeunes hommes qui t'observent et te regardent? Tu te dis « Ah, je chante dans un choral, je vais m'habiller pour qu'on me remarque. Quel genre de Jésus est cela? Ce n'est pas le Jésus dont nous lisons là. Verset 3, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions aussi une vie nouvelle. Ainsi, quelque chose de nouveau se passe en nous. Et alors, tout a été transformé parce que tu vois, tu marches dans l'unité avec Christ et dans cette vie nouvelle avec Christ. Est-ce que la Bible ment quand on t'a dit que nous deviendrons une nouvelle nature, une nouvelle créature? Et toi, tu vis, tu dis tu es croyant et rien n'a changé. Tu n'expérimentes pas cette vie nouvelle. Alors peut-être au final, tu mets la croix de côté et tu te dis, bon, si c'est comme ça, je vais mettre ma croix de côté. Je vais sortir, aller boire des coups, et quand je reviens, je reprendrai ma croix et je continuerai. Ou peut-être tu dis, attends, je vais lui dire mes quatre vérités, et tu blesses la personne par la parole et par ce que tu dis. Est-ce que tu vas avoir la paix? Ah, dis-moi, est-ce que tu vas y avoir la paix une fois que tu auras fait ça, que tu te seras énervé contre ton prochain? Si Dieu te convainc, tu ne pourras pas même dormir. Au début du réveil, nous ne pouvions pas dormir. Lorsque le Seigneur nous convainquait de péché, nous pouvions dormir jusqu'à ce que nous ayons mis en ordre. Aujourd'hui, certains et certaines dorment sur leurs deux oreilles et ne sont pas du tout troublés. Peut-être tu réalises, Dieu te convainc que tu n'as pas parlé de la bonne manière à ton prochain. Et alors, tu vas la voir, tu vas voir cette personne et tu t'excuses. Et tu n'as pas la paix jusqu'à ce que tu te sois excusé. Rappelez-vous comment David a écrit et imploré le Seigneur en disant, « Seigneur, n'enlève pas, ne retire pas ton esprit. » Peut-être par tes paroles, par tes actes. Le Seigneur t'a laissé depuis longtemps. Tu dis, j'ai reçu l'Esprit Saint, et pourtant l'Esprit du Seigneur est loin de toi. Si tu as l'occasion, retourne à la maison, relis le verset 10 ou le psaume 51. Rappelez-vous comment David implore. Il dit, « Seigneur, crée en moi un cœur pur et ne retire pas ton esprit. » En tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous expérimentons cette unité entre nous, cet amour entre nous, cette communion. Si ce n'est pas le cas, si tu n'as jamais expérimenté cela, alors rentre chez toi, crie à Dieu en disant, « Seigneur, accorde-moi cela. » Certains, peut-être, vont se poser la question en disant, « Qu'est-ce que cela veut dire lorsque tu dis qu'il faut aller à la racine du péché ?»
clear. It's not sufficient when you confess and say, well, I've got grudges, I'm stubborn, and so on.
Ceux qui nous ont aidés spirituellement, confesser ton péché, ça ne suffit pas de dire « Ah, je suis têtu, j'ai de la rancune. » Si tu fais cela, ce n'est que gratter la surface. Tu ne fais que écumer la surface. Si tu confesses, tu te mets en colère, tu t'es mis en colère. Alors pourquoi ? Il faut que tu arraches la racine en disant, cherche les raisons, quelle est le profond de ton cœur, les raisons pour lesquelles tu t'es mis en colère, tu t'es énervé. Tu dis, ah, j'ai regardé les garçons, j'ai regardé les filles, j'avais la convoitise. Non, aller aux racines, c'est donner les détails et laisser ainsi le Seigneur agir et que la personne puisse prier avec toi. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas de victoire sur le péché, parce qu'ils ne font que gratter la surface, ils ne vont pas en profondeur. Par exemple, si vous avez mal aux dents, alors vous allez au dentiste et vous allez dire exactement laquelle dent vous fait mal et exactement ce qui se passe. Et si tu retournes voir le dentiste quelques jours plus tard et que tu as toujours mal, alors il va poser plus de questions, il va aller comprendre les raisons. Et spirituellement, il en est de même. Versets 5 et 6. Si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Donc vous voyez, nos vieilles habitudes, notre vieille vie, nos vieilles manières de faire doivent être crucifiées avec Christ afin qu'il y ait une nouvelle vie. Vous savez, je suis Zoulou, si vous dites, je suis allemand, je suis Zoulou, je suis africaine, et ça vient de mes ancêtres, et j'ai toujours été comme ça. Non. Vous savez, ces personnes qui ont une telle attitude ne tiennent pas, ils ne restent pas avec nous longtemps. Parce que quand ils parlent, il parle toujours d'eux, moi, moi, moi. Ils veulent montrer ces personnes, ils veulent montrer qui elles sont et ce qu'elles valent. Et si ces vieil homme n'est pas mort, alors il doit être crucifié avec Christ pour que la nouvelle vie puisse émaner, puisse sortir. Jésus est mort sur la croix. Jésus a été crucifié sur la croix. Et nos péchés doivent être crucifiés, doivent mourir, doivent arriver à une fin. Nous ne pouvons pas dire, oh, c'est mort, mais pourtant, les choses continuent à vivre. Si vous frappez un serpent, vous ne frappez pas la queue, vous frappez la tête. Peut tête quand tu confesses ton péché, tu ne fais que frapper le serpent sur la queue, au lieu de frapper sur la tête. Si c'est le cas, alors ce péché est toujours vivant. Ce péché continue à bouger et à circuler dans ta vie et dans ton cœur. Et peut-être tu as été croyant depuis tant d'années, mais dis-moi, est-ce que le péché est vraiment mort dans ta vie? Peut-être y a-t-il encore un péché qui a besoin d'être crucifié, de mourir en toi. C'est ce que la foi veut dire. Le vieil homme doit mourir afin que par la croix nous ayons une nouvelle vie. Non pas que les gens arrivent à cette conclusion en disant « Ah, cette personne, c'est son habitude. Il parle toujours de cette manière. C'est toujours la manière dont il agit. » Le pasteur Stegen nous a enseigné, quand nous étions encore quelques-uns, tout au début, quand nous sommes venus, nous étions 5-6. Et nous a enseigné en disant, nous devons être comme d'un oranger. Vous savez, les gens viennent et ils lancent des bâtons ou ils secouent l'oranger. Et alors l'oranger donne des oranges. Rappelez-vous. Vous savez, à l'époque, les gens venaient et nous insultaient. Et ils étaient capables d'utiliser des mots très durs en disant « Vous n'êtes que des porcs. » Peut-être même « Ah, tu es tellement maigre, c'est le signe que tu as du péché. » Et ainsi, les gens, même certains, avaient des remarques racistes en disant « Ah, tu es noir comme un pot. » Alors, vous savez, face à telles insultes, on peut facilement s'énerver, mais nous ne sommes jamais allés au pasteur Stegen pour nous plaindre des insultes qu'on pouvait nous dire. Parce que nous nous sommes rappelés ce qu'il nous a enseigné, que nous devons être comme un oranger. Vous savez, aussi, certains se permettaient de mettre des coups de pied. De temps en temps, prenez un coup de pied sur le derrière et alors vous retournez et vous direz « Ah oui, telle personne m'a mis un coup de pied. » Un jour, je suis allé voir le pasteur Stegen et je lui ai raconté l'anecdote où une femme blanche elle m'a attrapé par le cou et elle m'a tiré au point presque de m'étrangler. Et je n'avais rien fait de mal. Cette femme était en train de nettoyer son linge. Elle était au robinet. Et je suis venu en demandant est-ce que je peux avoir de l'eau pour laver ma voiture. Et alors elle s'est énervée. C'est ainsi qu'elle m'a traité comme ça. Alors je suis allé voir le pasteur Stegen. Et je lui ai dit, maintenant je suis un vrai croyant. Il m'a regardé, il m'a dit « Ah bon, pourquoi tu dis cela ?» Alors je lui ai raconté ce qui s'était passé. Cette femme a fait ça et je n'ai pas répondu, je ne l'ai pas frappé. Vous savez, avant d'être croyant, si même une jeune fille me saluait et que j'avais pas envie qu'elle me salue, alors je lui envoyais des coups de poing ou je lui mettais des claques. Et là, j'ai pas réagi. J'ai dit au pasteur Stegen, j'ai pas répondu. Alors il m'a dit, ah bon. Et après quelque temps, cette femme a plié bagage et elle est partie. J'ai réalisé la raison pour laquelle je ne me suis pas énervé, je ne me suis pas mis en colère, que je n'ai pas répondu. C'est parce que Jésus avait fait quelque chose dans mon cœur. Il avait rendu toute chose nouvelle. Il avait transformé mon cœur. C'est pour ça que je n'ai pas eu la volonté de répondre. Donc si toi, tu te mets en colère, tu t'irrites, parce que peut-être quelqu'un te demande d'aller faire quelque chose, alors tu t'énerves, tu t'irrites, alors réalise que c'est le signe que quelque chose ne va pas dans ton cœur. En 1965, Pasteur Stegen était à Ladysmith et à cette époque, quelqu'un d'autre a alors pris la réunion dans notre église. Et il a utilisé l'image de la bouteille avec de l'eau. Il y avait de la terre au fond. Et alors, il nous a montré la bouteille et il nous a dit, est-ce que vous allez boire cette bouteille? Parce que l'eau était claire. Et nous avons dit oui. Et alors, il a secoué la bouteille. Et une fois qu'il a secoué la bouteille, l'eau est devenue trouble puisqu'il y avait de la terre au fond. Et alors, il a dit, est-ce que vous allez boire maintenant cette bouteille? Alors, nous avons répondu non. Et il a utilisé cette image pour nous dire, s'il y a encore de la saleté dans ta vie, si quelque chose t'arrive et que te secoue, alors ces saletés au fond se révèlent. Et si c'est le cas, alors c'est le signe que l'eau n'a pas été nettoyée comme il faut. Et c'est le signe que ton cœur n'a pas été nettoyé de toutes ces saletés. Donc si tu t'irrites, tu te mets en colère, quand quelqu'un te dit quelque chose, peut-être même médite sur toi, alors réalise que quelque chose n'est pas juste dans ton cœur. Verset 7, il est dit, « Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. » Si nous sommes morts au péché, alors nous sommes libres. J'ai même donné à un de mes enfants le nom de délivrance du péché, parce que à cette époque, nous avons expérimenté cette délivrance du péché, à l'époque où nous étions à Mapumulo. La délivrance, cette mort au péché. Donc si tu n'es pas mort au péché, si tu n'as pas été libéré de ton péché, si tu es encore esclave, lié à son péché, alors le Seigneur doit encore te libérer. Pourquoi le péché continue à te diriger? Parce que si tu veux être libéré, il te faut connaître cette mort au péché. Et je suis reconnaissant pour ceux et celles qui ont été délivrés de la puissance du péché. Cela m'apporte une grande joie. Tous ceux et celles qui peuvent témoigner qu'ils ont connu cette délivrance. Et cela se voit. On voit la libération. On voit la liberté dans leur vie.
And you have not yet been delivered and been set free. crying out to the Lord Jesus, like that blind man did, and he said, Jesus, son of David, have mercy on me.
Toi qui n'as pas connu cette libération, cette liberté, crie au Seigneur Jésus, comme cet homme aveugle qui a crié en disant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et que tu puisses en faire ainsi afin de connaître cette délivrance du péché.
Verset
8 et 9. Or, puisque nous sommes avec le mort avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Verset 10, il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant, et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché, et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Si nous sommes morts au péché, Jésus vit dans notre cœur. Jésus est maître dans notre cœur. Nous sommes témoins de cela. Ceux qui écoutent, ceux qui sont là, certains noms peuvent témoigner comment ils sont aussi morts au péché et comment ils vivent avec Christ. Quand une femme peut dire, même si mon mari est à Johannesburg ou à Durban, loin de la maison, je sais que mon mari sera... Je peux faire confiance à mon mari. Il ne sera pas, ne fera pas n'importe quoi. Et de la même manière pour les jeunes. Les parents peuvent avoir confiance dans leurs enfants parce qu'ils savent qu'ils sont morts au péché. Verset 12, que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Alors que les personnes se prétendent chrétiennes, croyantes ou pas, malheureusement, dans beaucoup de vies de chrétiens, le péché continue de régner. Les gens continuent à vivre comme Sodome et Gomorre, et pourtant, ils se prétendent chrétiens. Certains sont consumés par la passion, la convoitise, et pourtant se prétendent être chrétiens. C'est pourquoi nous avons lu cette parole. Que personne ne dise qu'il est mort au péché, se prétendre croyant et pourtant continue à vivre habituellement dans le péché. Alors, réponds à la question suivante. Est-ce que le péché continue à régner dans ta vie, à diriger ta vie? Toi, jeune homme, jeune fille, comment peux-tu continuer à chanter avant, alors que tu n'as pas la victoire, tu n'es pas délivré du péché? Alors, il vaut mieux arrêter de chanter si c'est le cas. Ne va pas avec ton téléphone regarder et te souiller avec toi-même. Tu vis la vie de Sodome et Gomorrhe. Et si c'est le cas et que tu continues à chanter, alors arrête de chanter et règle cela dans ta vie. Beaucoup ne réalisent pas que derrière ces images pornographiques, vous avez des satanistes qui invoquent les esprits, qui prient sur ces choses pour que les gens deviennent accros. Et tu regardes ces images et tu ne réalises pas que tu ouvres la porte au diable et que tu es possédé, tu es dominé par ces puissances démoniaques, par le téléphone. Le feu du Seigneur a été arrêté dans la vie. Peut-être tu penses que dans la salle de bain et on pense que tu es occupé à la salle de bain et pourtant tu es affairé avec ton téléphone et tu vis la vie de Sodome et Gomorrhe, tu vis cette vie d'enfer déjà sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et pour ceux que je vois en train de dormir dans le culte, la réunion, cela est le signe que la croix n'a pas fait son œuvre encore dans ta vie. Si tu es mort au péché, alors tu aimes la parole de Dieu, tu aimes le salut. Toutes ces choses deviennent précieuses dans ta vie. Il est merveilleux cette parole qui dit, pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Enfants, frères et sœurs, père, mère, par la parole de la croix, nous avons la puissance de salut et la puissance pour dominer le péché. Est-ce que la puissance de la croix a déjà fait son œuvre dans ton cœur? Si ce n'est pas le cas, alors crie à Dieu, crie au Seigneur pour qu'il t'aide. Je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit. Si vous prenez un caillou et vous le mettez dans une rivière, dans l'eau, et que vous le ressortez, et que vous cassez ce caillou en deux, alors vous regardez à l'intérieur, la pierre est sèche, totalement sèche. Peut-être tu te dis, telle ou telle personne est là sur cette terre de réveil et pourtant elle est sèche comme un rocher. Son cœur n'a pas changé. Ça me rappelle ce que le pasteur Seguin a souvent dit. Il a dit, là où le Seigneur est à l'œuvre, le diable est aussi à l'œuvre. Ne sois pas si protecteur de ton petit enfant en disant, oh mon chéri, ils sont innocents, ils ne sont pas si méchants. Peut-être ton propre enfant est celui qui vient à la réunion, qui s'endort dans la réunion, qui n'écoute rien, et après tu t'étonnes que la parole de Dieu n'agisse pas dans sa vie. Verset 13, Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché, comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Il dit donc, nos membres, est-ce que je dois mentionner ces membres? Les yeux. Voilà un des principaux membres du corps. Comment est ton regard? Comment regardes-tu les autres? Est-ce que peut-être toi, garçon, tu regardes les filles comme tes sœurs ou les garçons comme des frères? Ou est-ce que tu as des yeux pleins de convoitises, de passions injustes? Alors si c'est le cas, va, mets à la lumière cela, va voir un enfant de Dieu en disant, mes yeux n'ont pas été sauvés, mes yeux n'ont pas été lavés. Et quand je regarde telle ou telle personne, voilà ce que je pense et quel convoitise m'anime. Un garçon de 12 ans est venu me voir et m'a dit, ah, j'ai regardé une fille et je l'ai aimé, je suis tombé amoureux. Je dis, mais quel âge tu as? J'ai 12 ans. Je lui dis, tu veux te marier? Il dit, ah ben non. Je dis, tu veux être père? Voilà le genre de questions qu'on nous posait quand nous étions jeunes. Et alors, ainsi, cela nous aidait à comprendre ce qu'est le péché. Et alors, on nous posait des questions au point qu'on était dans un coin. Et ainsi, on ne pouvait pas... On apprenait. Alors, on peut demander, t'as des vaches? T'as de quoi payer la dot? Ah non, rien. Ainsi, on peut aider la personne dans sa folie. Et vous savez, les péchés attaquent même les enfants. Et toi, en tant que parent, ne pense pas, « Ah, mon enfant est un ange. » Non, tous les enfants ne sont pas sauvés, ils ont besoin d'être sauvés. Voilà donc le message que j'avais à cœur ce matin. Demandez à notre frère Kumalo de conclure. Merci beaucoup à notre frère Papa Dubé. Il a mentionné un certain nombre de points dans sa prédication. Si nous sommes morts au péché, est-ce que nous pouvons continuer à vivre dans le péché? Alors, laissez-moi l'illustrer avec l'image du fantôme de l'esprit.
Explained it like this: visit them, that was going to bless them. But if somebody of them would really come back to life and appear to them, I'll tell you they'll scatter in all directions, running for their life.
Quelqu'un l'a expliqué pour moi de cette manière. Et les gens qui sont affairés avec le culte des ancêtres, alors ils vont aller au cimetière et ils implorent les morts de revenir pour les aider, pour leur apparaître. Alors, vous savez, si c'était vraiment le cas que l'esprit des morts revenait, je peux vous dire que ces gens qui pourtant implorent ces morts de revenir, ce seraient les premiers à courir et à partir en courant. De la même manière, si tu es mort au péché et que tout d'un coup tu es de nouveau vivant, que ce péché vit à nouveau, alors cela serait très étrange, comme si quelqu'un qui est mort et qui réapparaît. Pourquoi, frères et sœurs, si nous sommes morts au péché, alors restons attachés au Seigneur, parce que c'est le seul endroit où nous sommes en sécurité auprès du Seigneur. Par la grâce de Dieu, que nous ne puissions jamais retourner dans ce péché, parce que nous pouvons dire, je suis mort à ce péché, que Dieu me garde de retourner. On va devoir mentionner la fidélité dans le mariage quand il est le mari et peut-être travaille très loin. Et comment dans un mariage, alors le couple peut se faire confiance parce qu'il sait que l'autre ne fera pas des bêtises. Et ça me rappelle l'histoire de cet homme qui était infidèle à sa femme. Et en plus, il n'était pas loin à la ville, à travailler en ville, mais vivait avec son épouse. C'est arrivé plusieurs fois que le mari s'absentait le soir et ne rentrait pas et ne réapparaissait que le lendemain matin. Alors la femme lui demandait, « Mon mari, où étais-tu ? Que faisais-tu ?» Et vous savez, certains hommes sont capables de faire taire leur femme avec un coup. Un jour, cette femme était très intelligente. Elle est allée visiter des amis. Ce jour-là, le mari était à la maison le soir. Alors sa femme n'est pas rentrée le soir. Elle est allée visiter des amis. Et tôt le lendemain matin, alors que le soleil sortait de l'horizon, juste au début du jour, la femme est revenue à la maison. Alors elle est arrivée, elle a dit, « Tu sais, mon mari... » Le lendemain, quand la femme donc, est revenue à la maison, le mari s'est plaint auprès de sa femme en disant, « Mais où est-ce que tu étais ? J'ai pas dormi la nuit. » Et Moi, un fantôme m'a empêché de dormir, on pourrait dire. Et lorsqu'elle est revenue, alors il était en colère contre sa femme, qu'elle ne soit pas rentrée la veille. Elle a répondu, je suis désolé, je ne suis pas rentré hier soir, mais j'étais en visite, je suis allé voir ma mère, et tu sais, ton fantôme me chassait, me faisait aller de droite et de gauche, parce qu'en fait c'était l'excuse qu'il utilisait quand lui rentrait, c'était l'excuse que lui utilisait quand il rentrait pas. Donc elle a utilisé les mêmes vieilles excuses, les mauvaises excuses que lui utilisait quand lui ne rentrait pas le soir. Ainsi, elle lui a rendu la monnaie de sa pièce, on dirait en français. Et ainsi, il a été révélé qu'il mentait tout du long. Mais si nous sommes morts au péché, est-ce que nous pouvons continuer à vivre dans le péché? Est-ce que nous pouvons être à nouveau vivants avec ce péché? Pierre a écrit que si une personne retourne à son péché, c'est comme un chien qui retourne manger son vomi. Si tu t'es séparé, ton péché, que ce soit la fin de l'histoire. Non pas qu'on te retrouve à faire ou à être affairé avec ce même péché à nouveau. Comme un cochon que l'on lave et qui retourne se vautrer dans la boue. Voilà une personne, ce qu'est une personne qui retourne à sa drogue, qui retourne à son alcool, qui retourne à sa immoralité. Nous qui sommes morts avec Christ, morts au péché, pouvons-nous continuer à vivre dans le péché? Frères et sœurs, que le Seigneur nous accorde la grâce de nous accrocher, nous attacher à Christ, à vivre pour lui et à résister au péché jusqu'à la mort. Nous voulons prier. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui réveille, qui renforce nos cœurs. Seigneur, ne veux-tu pas nous aider que les genoux chancelants puissent être renforcés, qu'on puisse se tenir droit pour l'Évangile.
Et
Seigneur, quiconque est au milieu de nous, qui a glissé, qui est retourné dans ce péché, péché pour lequel il s'était repenti pourtant, Seigneur, accorde que cette personne ne reste pas orgueilleuse, mais qu'elle ait l'humilité de revenir à toi, de se repentir et de s'humilier. Seigneur, ta parole nous enseigne. Quiconque cache son péché ne prospère point, mais celui qui les avoue, les confesse et les abandonne trouve miséricorde.